Chapitre 96. Rex observe les affaires de chasse posées sur le couvre-lit dans sa chambre d'hôtel. Il brise les scellés, ouvre la caisse en bois, sort le grand couteau de chasse et coupe les étiquettes des habits. Ils ont décollé de Egernesviken, près de Stockholm, dans un Cessna bimoteur équipé de flotteurs, tôt dans la matinée. La cabine était pressurisée, mais le bruit rendait toute conversation impossible. Pendant le vol de 1200 km, Rex s'est senti un peu comme Nils Holgersson. Le paysage sous leurs pieds changeait sans cesse. Les champs cultivés et les zones habitées se transformaient en forêts de pins verts sombres, puis en marécages. L'avion avait atterri à la base d'hydravion de Kuravara, où un chauffeur attendait pour les conduire au complexe hôtelier dédié à la chasse. Ils avaient emprunté la route européenne numéro 10 en direction de Narvik, en Norvège, entre le chemin de fer et l'eau bleue sombre du lac Tornetresk. En dépassant la station touristique d'Abisko, ils pouvaient distinguer au loin, entre deux sommets, la brèche en forme de demi-lune, Laporten, la porte de la Laponie. À la station de sport d'hiver de Björkliden, la voiture avait quitté la grande route pour suivre une piste sinueuse vers Tornham. L'hôtel récent est situé sur l'ancien emplacement du camp de base des ouvriers qui, plus d'un siècle auparavant, construisaient la Malmbanan, ligne ferroviaire dédiée au transport du minerai de fer. Ils sont complètement seuls ici, à 200 km au nord du cercle polaire. Arrivé à l'intersection en T, le chauffeur avait emprunté une voie d'accès bordée de gros pavés avant de les déposer devant l'escalier d'entrée. Une fois les portes déverrouillées et l'alarme débranchée, DJ les avait fait entrer dans le hall vide. Passant devant la réception abandonnée, il avait fait le tour de l'hôtel désert avec Sammy et Rex. Ils avaient visité l'énorme salle du restaurant et la grande cuisine professionnelle, ouvert les congélateurs remplis de viande sous vide, 2 centaines de pizzas, 30 cartons de hamburgers, pain, turbo, omble chevalier et œufs de Corrigan. Traversant de longs couloirs recouverts de moquettes épaisses, ils avaient emprunté l'escalier tournant pour descendre dans le spa hors service avant de longer une piscine d'entraînement vidée. Le sol de la cafétéria était en cours de réfection et une montagne de meubles remisés bloquait le passage. Rex se tient devant son lit, le regard tourné vers la fenêtre. Au-delà de l'intersection en T et du lac Paktayokoluobala, s'étendent montagnes et vallées, et les innombrables étangs qui ressemblent à des gouttes de plomb fondu. Il prend la paire de chaussettes, retire le papier de soie et commence à s'habiller pour la chasse. DJ a soigneusement sélectionné l'équipement, choisi les bonnes tailles et trouvé des habits techniques exceptionnels. Anti-odeur, pour que les animaux ne puissent pas vous flairer, du matériel qui atténue les bruits et qui ne laisse passer ni l'eau ni le vent. Rex ressent un malaise indéfinissable et se retourne. Il lui semble que la lumière a soudain baissé dans son dos. Une fois habillé, il glisse les jumelles, la gourde et le couteau dans le sac, pose la main sur la poignée de porte et éprouve la même gêne avant de s'engager dans le couloir. Il s'arrête devant la chambre 23 et frappe un petit coup. Toutes les serrures électroniques sont débranchées, mais on peut toujours fermer à clé de l'intérieur. « C'est ouvert !» lance une voix assourdie. Rex entre, enjambe les chaussures dans le vestibule et pénètre dans la vaste chambre. Sammy est assis sur le lit et regarde la télé. Il a enfilé ses vêtements de chasse, même la veste, mais sans la boutonner, et il s'est maquillé les yeux avec du mascara et une ombre à paupières dorées. « Je suis vraiment content que tu viennes avec nous, » dit Rex. « Bah, de toute façon, je pourrais pas rester tout seul ici, » répond son fils. « Pourquoi ?»« J'ai déjà envie de faire de la voiture à pédale dans les couloirs et de commencer à parler à mon index. » Rex éclate de rire. Puis il explique que DJ pense que c'est important qu'il participe à la chasse. « Je dis seulement que ce serait plus sympa de rester ici et cuisiner, » dit Sammy en éteignant la télé. « Je suis d'accord avec toi. » On va voir quels sont les richards que Didier a réussi à faire venir jusqu'ici, soupire Samy, et il attrape son sac. Il passe en silence dans le couloir froid et entend des rires gras et des verres qui s'entrechoquent. Dans le hall, devant la cheminée, Didier boit du whisky en compagnie de trois hommes en tenue de chasse. Voilà Rex, s'interrompt Didier d'une voix forte. Les hommes se taisent et se retournent dans leur fauteuil, un sourire aux lèvres. Rex chancelle. C'est comme tomber dans un gouffre. L'un des hommes est James Killenborg. Il ne l'a pas vu depuis l'agression dont il a été victime 30 ans plus tôt. James était venu dans l'écurie et l'avait frappé sur le dos et dans la nuque avec une planche, lui avait donné des coups de pied à l'entrejambe quand il était à terre, lui avait craché dessus. Rex prend appui contre un fauteuil en cuir et s'aperçoit qu'il a laissé tomber son sac. Le couteau de chasse est tombé sur le tapis. « Qu'est-ce que t'as, papa ?»« J'ai perdu... » Rex ramasse le sac et le couteau, se force à chasser ses nausées et s'avance pour saluer le groupe. Il reconnaît les deux autres hommes qui fréquentaient aussi le lycée de Ludwigsberg à la même époque, mais il ne se rappelle pas leur nom. « Je vous présente Samy, mon fils, » dit Rex, la gorge serrée. « Santé, Samy, » dit James. Tous serrent la main à Rex sans se lever et se présentent James, Kent et Lawrence. Tous ont vieilli. James Gillenborg a pris une teinte grisâtre uniforme. Il semble fade, comme si les années avaient chassé la vie et les couleurs en lui. Rex se souvient d'un jeune homme blond et écarlate aux lèvres minces et aux yeux bleus stressés. Kent Wrangel est un homme corpulent au visage rougeau. Il porte des lunettes et une chaîne en or autour du cou. Lawrence von Thurn est corpulent, lui aussi, avec une barbe grise et des yeux injectés de sang.
Vous croyez en notre projet et ça nous fait particulièrement plaisir que ce soit vous, précisément, dit DJ. Parce que ça va être un putain de succès. Et vous êtes au courant que Rex vient de recevoir le prestigieux prix du chef des chefs.
Pas du tout mérité, évidemment, sourit Rex.
Félicitations, dit James. Et il lève son verre et boit une gorgée. Les deux autres applaudissent et affichent un sourire de satisfaction. Rex cherche le regard de DJ sans parvenir à le capter. Je voudrais juste expliquer une chose, poursuit DJ tout en remplissant les verres de whisky. La raison pour laquelle j'ai confisqué tous les téléphones, y compris le mien, c'est que cet accord va faire l'effet d'une bombe dans notre branche. Et après l'explosion, tout deviendra plus difficile et beaucoup plus cher. Du coup, ce qui se passe ici est une sorte de dark pool. Que vous choisissiez de signer l'accord ou de vous retirer, ma condition est que l'information ne doit pas être divulguée tout de suite pour que nous, qui restons dans le deal, puissions négocier librement avec les fournisseurs les plus importants.
« Ça va être un truc balèze, » dit Kent en s'étirant les jambes.
« DJ, j'ai un mot à te dire, » souffle Rex, et il l'entraîne à l'écart.
« Ça promet, hein ?» chuchote DJ pendant qu'il se rentre dans la salle à manger.
« C'est quoi cette connerie? Qu'est-ce que tu manigances ?» lance Rex. « Je n'ai aucune intention de traiter avec des salopards de mon ancien lycée. »«
Je croyais que... vous vous connaissez, c'est un putain d'avantage. On s'en fout qu'ils aient été des salopards à cette époque-là. L'important, c'est qu'ils aient du fric aujourd'hui, non ?»
Rex secoue la tête et lutte pour paraître plus calme qu'il ne l'est.
T'aurais dû me prévenir, t'aurais dû m'en parler.
Mais sérieusement, c'est presque impossible de faire des affaires en Suède sans tomber sur des gens qui ont été à Ludwigsberg.
DJ aperçoit Kent qui vient vers lui avec deux verres de whisky. Il va à sa rencontre et le raccompagne devant le feu. Rex reste dans la salle à manger et les regarde. Sa tête bouillonne d'indignation et il se dit qu'il doit juste supporter de passer la nuit ici. Il va tenir encore quelques heures, puis il trouvera une excuse et Samy et lui pourront partir dès le lendemain matin. Il essaie de se persuader que ceci est une étape importante. C'est une manière d'assurer sa situation économique et l'avenir de Samy. Rex observe James Gillenborg qui est en train d'examiner la paume de sa main à la jumelle. Est-ce qu'il se souvient de ce qu'il a fait?
Il en a sans doute tabassé plus d'un pendant ses années de lycée, ça faisait partie de ses privilèges. Mais Rex a dû être un des rares à ne pas accepter ce qui s'était passé. Il avait quitté l'établissement dès le lendemain, avant le petit déjeuner, sans jamais y remettre les pieds. « Écoutez-moi, » commence DJ en frappant dans ses mains pour avoir l'attention de tous. Beaucoup de gens pensent que la chasse en enclos est réservée aux familles royales. Mais le fait est que dans cette zone de chasse, les rennes sauvages sont beaucoup plus farouches que ceux qui vivent en liberté. Rex fait quelques pas vers l'ouverture de la porte et s'approche des hommes dans le lounge pendant que DJ énumère les règles.
On a chassé le renne en Norvège, dit Lawrence de sa voix basse. On a passé 8 heures dans un mirador sans réussir à tirer un seul coup.
Mais ici, c'est une chasse en poussée silencieuse qu'on va pratiquer, rappelle DJ. On se déplace en petits groupes. On s'approche des rennes sans faire de bruit. On inspecte le terrain, les empreintes. C'est une sacrée expérience. Pour les approcher de près, on doit observer un silence absolu et tenir compte de la direction du vent.
Et on n'a pas de plan B, dit Rex avec un sourire. Si aucun de nous ne tue de rennes, j'aurai pas de quoi vous préparer un dîner, et il faudra vous contenter de patates ce soir.